Jean-Luc persécuté, deuxième partie. Jean-Luc guérit rapidement, étant robuste. L'enflure avait diminué, on lui mit la jambe dans un appareil. Bientôt, il sortit, tout frais et lavé de ses mauvaises nuits de fièvre. Ce fut un clair matin. Il avait dormi tard, un beau soleil entrait par la fenêtre. L'herbe avait déjà reverdi, et voilà que Christine vint, apportant le petit Henri, lequel commençait à parler et à avoir sa connaissance. Elle lui dit « C'est ton gros papa qui est là !» Il répétait « Papa, papa !» Jean-Luc lui tendit les bras. Elle le lui donna un instant à tenir pendant qu'elle allait préparer le café. Puis, étant revenue avec la tasse pleine, elle reprit l'enfant, et elle le tenait sous les bras pendant qu'il essayait de marcher, car il commençait aussi à marcher. Mais il fallait d'abord relever ses langes, et il lançait en avant drôlement ses petits pieds à gros bas de laine rose, avançant tout penché, branlant, pendant que Christine, baissée, allait derrière. Alors, de temps en temps, elle écartait les bras, et le petit faisait deux ou trois pas tout seul. « Tu vois, il y est !» qu'elle disait. Mais au même moment, il tombait en avant, juste si elle avait le temps de le retenir. Elle se tourna vers le lit. Elle vit Jean-Luc, assis contre les oreillers, qui tenait sa tasse, et s'était arrêté de boire, la regardant, elle et l'enfant. Elle lui dit « Est-il beau et fort pour son âge ?» Il dit « Oh oui !» Et elle, s'approchant de lui, le lui lança, disant « Va vers ton papa !» Et pendant que l'enfant se roulait contre lui, Jean-Luc riait dans sa courte barbe repoussée. Il dit à Christine « Viens aussi ». Elle lui disait « Et ta jambe ?»« Risque rien, dit-il, je ne la sens plus. » Elle vint aussi. Il lui parlait, il lui disait « Vois-tu, c'est oublié, n'est-ce pas ?»« Bien sûr. » Et lui de nouveau « Bien sûr. » « Tant que je peux !» qu'elle disait. « Et puis, dit-elle, embrasse-moi. »« Et où veux-tu que je t'embrasse ?» Elle souriait en le regardant avec son visage tout contre le sien. En même temps, elle relevait ses cheveux avec deux plis jolis à ses joues brunes. Entre ses lèvres écartées, ses dents belles, blanches, brillaient. L'une d'elles, sur le côté, n'ayant pas eu de place pour pousser, était restée un peu penchée. Elle lui dit « Embrasse-moi sur le pâle des yeux. » Elle les lui tendit. Ils étaient humides et beaux, de la couleur de la peau des châtaignes. Il les tint sous lui, grands ouverts. Elle recommença. « À présent, sur le front. » Il l'embrassa sur le front. Elle l'avait haut et bombé. « Christine, dit-il, petite Christine. » Mais elle disait « Et puis sur les joues !» Et lui mordait dedans comme dans une pomme. Et alors elle rit. « Et puis encore, dit-elle, tant que tu pourras, sous le nez !» Seulement, comme elle levait la tête, déjà il l'avait prise, appuyée contre lui et soulevée avec le petit accroché à elle. Et il voyait à présent son ancien amour revenu, aussi grand qu'avant, même plus qu'avant, comme si les jours de la séparation et les dures choses passées eussent été détruits et écrasés entre eux. Et il se réjouissait de sa jambe cassée, du jour de sa sette, de son mal, de tout. C'est pourquoi il l'appelait de doux nom, lui parlant dans son baiser « Christine, Christine que j'aime, on a bon frais contre les dents. » Elle lui dit « Peut-être que c'est pour mordre. » Il l'embrassa encore. Il y avait au bord du toit des petits oiseaux qui criaient. Chapitre quatrième. Ce fut de nouveau le bonheur. Il lui avait acheté de l'étoffe pour une robe qu'elle tailla et cousit elle-même, ayant emprunté la machine d'une voisine. Lui, étendant sa jambe sur le banc, la regardait tourner la roue avec l'aiguille qui sautille, pendant que Marie donnait des conseils. Puis il commença à sortir un peu, s'appuyant sur sa canne. Il avait pris, pour faire son bien, un ouvrier à la journée. Il sortait le surveiller, il rentrait, il avait un cœur tout neuf, une tête toute neuve. Le printemps était là, mélangé comme il est de bleu et de noir, avec des jours de beau soleil, puis des averses et du vent. Mais qu'est-ce que cela lui faisait? Il trouvait plaisir à la pluie, il trouvait plaisir au soleil. Il y avait eu les anémones violettes, les crocus qui aiment l'eau, les hépatiques des haies, les primes verts comme des assiettes. Alors viennent les gentianes. Il semble qu'on voit le blé pousser. Tout d'un coup, il a un pied de haut. Et le soir, l'air qui passe a un goût de pain frais. Jean-Luc ouvrait la bouche. Il disait « C'est bon !» Alors il la trouvait qu'il avait entendu venir de très loin, qui sortait sur le pas de la porte, qui disait « Veux-tu que je t'aide à monter l'escalier ?» Il répondait « Je peux bien tout seul. » Il faisait voir comme il pouvait bien. « On dirait que j'ai 16 ans, » qu'il disait. Alors on entendait un autre petit pas et une autre petite voix. C'était Henri qui venait derrière sa mère. Jean-Luc le faisait sauter en l'air, et le petit Henri riait et avait peur en même temps. De même, les gens qui s'étaient tenus à l'écart commençaient à revenir le dimanche après la messe. Des voisins, des voisines, les amis de Christine. Peu à peu aussi, Jean-Luc marcha plus facilement. Il allait par le village. On l'invitait à boire, il entrait. Et à son tour, il invitait les gens, et on venait. Un soir, ils se trouvèrent 7 ou 8 à la cave. On était allé au muscat, Jean-Luc remplissait le verre, les hommes se le passaient, se tenant en rond autour du tonneau. Et Christine était dans un coin. De là, causait et plaisantait, mais les autres savaient répondre. Et on s'amusait de Marie, qui, chaque fois qu'on lui tendait le verre, cachait ses deux mains sous son tablier. « Moi, je bois bien !» disait Christine. Elle faisait comme elle disait. Les autres faisaient comme elle. Parut Pierre Carre avec son mulet. C'était un gros homme, toujours ivre, qui passait sa vie sur les chemins. Et le matin, il pouvait encore se faire qu'il menât sa bête. Le soir, c'était toujours sa bête qui le menait. On l'appela, il vint, mais n'entra pas. Il n'aurait pas pu. Il restait debout sur le pas de porte, appuyé du dos au bas du mulet. On lui dit « D'où viens-tu ? » Il leva le bras en l'air. « De là-bas !» car il ne savait plus, étant dans les vapeurs. Alors Jean-Luc, en lui versant à boire, « Il te faut prendre encore celui-là pour faire descendre les autres. » Il répondit « Bien sûr, je sens le vide par en haut. » Il répétait « En bas, ça va, c'est en haut que ça ne va pas. » De quoi tout le monde éclata de rire, et les voix allaient loin dans la nuit qui venait, tandis que Carr était reparti, s'accrochant de nouveau à la queue de sa bête, tenant les deux bords du chemin. Quelqu'un lui cria encore « Prends seulement patience, on va s'arranger pour le rélargir. » Puis tous rentrèrent dans la cave. D'autres voisins étant venus, sur la planche où on le tient, on avait été prendre un quartier de fromage. On mangea, on but de nouveau, les histoires allaient leur train. Il y avait là le sergent Braillard, qui était le plus grand vantard de la commune. Et le drôle, surtout, c'était qu'il croyait à ses menteries quand il avait bu. On lui dit « Raconte-nous celle de l'ours !» Il y a dans la montagne une espèce de col qu'on appelle le pas de l'ours. Le sergent commença. J'allais par là, je vois venir l'ours. Je sors mon couteau de ma poche, je m'arrête, lui s'avance. Je pensais, il va me sauter dessus, mais je saurais bien me défendre. Pas du tout, le voilà qui se met debout sur ses pattes, me pose la main sur l'épaule et qui me dit « Sergent Braillard ». Il ne put pas aller plus loin, on riait trop. Et le tablier de Christine, tant elle l'avait mordu pour s'empêcher de rire, était tout mâchonné dans le bas. Seul le sergent restait sérieux, regardant les autres d'un air offensé. Il était tard quand on se sépara. La nuit était tout à fait venue. Il faisait chaud et doux, avec dans le haut des montagnes, sous la lumière des étoiles, les grandes neiges qui luisaient. Mais partout en bas, les fleurs, leur odeur et les foins déjà mûrissants. Jean-Luc, en montant l'escalier, avait passé son bras autour de la taille de Christine. Il y avait un croissant de lune au ciel, il glissait parmi les nuages comme un petit bateau pointu. Et voilà que, sa jambe s'étant fortifiée, Jean-Luc avait pu se remettre à travailler. On était à l'entrée de l'été, il travaillait avec joie, dans le désir et l'amour d'elle. Et comme, un jour, quelqu'un, car il y a toujours des gens qui se plaisent à faire le mal, comme un jour quelqu'un lui disait « Tu sais, Augustin est de nouveau là. » Il répondit « Qu'est-ce que ça peut me faire ?» Il partait le matin, il rentrait à midi. Puis, parti de nouveau, on ne le voyait plus qu'à la nuit. Quelquefois, Christine l'accompagnait au champ. Mais d'ordinaire, elle restait à la maison pour traire et préparer le repas, ayant en outre le petit à soigner. Quant à lui, des fois attardé, son grand plaisir était, au tournant du chemin, d'apercevoir là-bas la petite lumière à la fenêtre de la cuisine, et cette porte ouverte aussi, ce carré rouge dans la nuit où paraissait une forme noire. Et alors il pensait « C'est elle, elle m'attend ». Ainsi le temps passa avec tant de rapidité qu'il semblait que les jours eussent diminué de la bonne moitié, de sorte qu'on regarde en arrière avec regret, mais en avant de soi, il y a comme des promesses, et cela fait ensemble quand même du bonheur. Et Jean-Luc se disait « Ça va durer toujours ». Il se trompait. On met ainsi sa confiance aux choses. C'est comme une planche pourrie. Elle vous casse sous le pied. Un soir, il ne vit pas la petite lumière. Christine était sortie. 2 jours après, de même. Une fois, étant rentré au milieu de l'après-midi, il trouva la porte fermée. Il demanda à Christine « Où as-tu été ?» Elle lui dit « À la boutique, ensuite chez le boulanger. » Mais il ne put s'empêcher de se dire « Autrefois, elle sortait moins souvent. Elle était tout le temps là. » Pourtant, elle était gaie comme avant, prévenante. C'était comme par en dessous qu'il sentait qu'elle était changée. Elle se défaisait de lui. Avec ses mêmes yeux, avec sa même voix, habillée de façon pareille et les mêmes mots dans sa bouche, elle était autre, comme il pensait. Et plus on allait, plus elle changeait. Peut-être un peu moins patiente, plus nerveuse, plus distraite. Il lui demandait « Qu'est-ce que tu as ?» Elle lui répondait « Rien, que veux-tu que j'aie ?» Et comme il reprenait « Que si !» Elle riait, disant « Tu te fais des idées !» Et alors, au-dedans de lui, « Peut-être que je me suis trompée. » Mais les semaines ayant passé encore, il fut bien forcé de se dire que non. Il se couchait très tôt, étant levé au petit jour. Pendant ce temps, Christine déshabillait l'enfant, puis retournait à la cuisine. Il l'entendait aller et venir. Il s'endormait à ce bruit de pas. C'est l'heure où le village lui aussi descend au sommeil. L'Angélus a sonné. À la fontaine, encore une ou deux vaches viennent boire, qu'on pousse le long du chemin. Un garçon qui rentre des bas marche derrière son char, jouant un air sur ses orguettes. Les lanternes vont et viennent et font des lueurs au mur des maisons. Puis les portes sont poussées et retombent sur le silence, où il n'y a plus rien que les petites lampes comme des yeux dedans la nuit, lesquelles se ferment l'un après l'autre. Un soir que le petit l'avait réveillé en pleurant, il se trouva seul dans le lit. Il écouta, personne. Il était pourtant 10h30. Il attendit. Un moment après, elle rentra. Il lui demanda « D'où viens-tu ? » Elle lui dit « Félicie est venue me chercher. Le père n'était pas bien. » Il ne lui dit plus rien. Elle se coucha près de lui et tout de suite elle s'endormit. Mais lui se disait, cette fois avec assurance, « Elle a quelque chose ». Plusieurs jours, il chercha quoi ? Sans trouver. Est-ce qu'elle lui en voulait toujours ? Car les rancunes vont et viennent. Mais alors, le jour de sa sète ? Ou bien, sans le vouloir, lui aurait-il fait du chagrin ? Mais quand et comment ? Il ne voyait pas. Il cherchait toujours. Un de ces jours-là, comme il remontait la rue du village, il aperçut de loin Augustin qui venait. Celui-ci, dès qu'il eut vu Jean-Luc, lui tourna le dos et revint sur ses pas. Alors Jean-Luc eut une idée. « Je sais ce que c'est. Sûrement qu'elle tient encore à lui, et elle est fâchée de nous voir brouillés. » Il n'attendit plus que l'occasion, qu'il trouva bientôt. Il avait été à la boutique, Augustin en sortait justement. Il alla droit à Augustin, il lui dit « Salut, Augustin !» et lui tendit la main que l'autre prit, quoique étonné. « Vois-tu, j'ai pensé, il faut qu'on soit bons amis de nouveau, c'est pourquoi je suis venu. Et si tu veux, voilà, c'est fait. »«
Est-ce qu'on n'a pas toujours été bons amis ?» dit Augustin.
C'était un beau grand garçon à figure rouge, toujours bien habillé, avec un chapeau noir mis en arrière, une chaîne de montre en argent et un col. Il travaillait dans les hôtels, comme on dit. Ainsi, 7 mois il était absent, étant parti l'hiver d'avant presque en même temps que Jean-Luc. Puis il revenait pour 2 ou 3 mois et se remettait à son bien. Jean-Luc continua.
« Seulement, pour qu'on en soit sûr, il faut que tu viennes chez moi et on boira un verre. »
Et comme Augustin répondait « Une autre fois. »
« Écoute, reprit Jean-Luc, je me dis, si tu ne viens pas, c'est qu'il y a encore quelque chose entre nous. Et s'il n'y a rien, tu viens et on boira un verre. »
Tellement qu'Augustin céda et dit « Je veux bien. » Sans comprendre. Et ils se mirent en route ensemble. Pendant qu'ils allaient, Jean-Luc se disait « Elle va être joliment attrapée. » Arrivé devant la maison, il cria « Hé, Christine !» Elle parut sur le perron. Lui, d'en bas, « Christine, on est deux, va chercher à boire !» Il faisait déjà sombre, elle ne vit rien tout d'abord. Puis, comme il montait l'escalier, elle reconnut Augustin. Elle recula sans rien dire. Elle pâlit, ensuite une rougeur lui vint. Elle regarda son mari, il lui disait « Est-ce que tu nous invites ?» Elle fit un effort et répondit « C'est qu'on n'a rien de bon !» Il lui dit « Va toujours, c'est pour trinquer à l'amitié. » Elle reprit « Vous ne descendez pas ?»«
Non, » dit Jean-Luc, « on sera mieux à la cuisine. »
Elle alla tirer le vin à la cave, et, étant remontée, trouva Jean-Luc et Augustin déjà assis, Jean-Luc bourrant sa pipe, son tabac posé devant lui, qu'il tendit à l'autre, lui disant « Goûte-le, c'est du nouveau qu'ils m'ont donné à essayer. » Et Augustin prit le paquet pendant que Jean-Luc remplissait les verres. Il n'y en avait que 2. Il appela « Christine !» Elle n'était déjà plus là. C'est de la chambre qu'elle répondit « Que veux-tu ?»«
Elle tient !»
De derrière la porte à moitié refermée « Je ne veux pas boire, je n'ai pas soif. »«
Qu'est-ce que tu fais ?»«
Je mets les habits du petit en ordre. »«
Dépêche-toi » dit-il.
« On s'ennuie sans toi. » Elle s'était assise dans un coin sombre et ne bougeait plus. Elle écoutait les 2 hommes parler, premièrement avec des phrases rares, puis qui s'animaient peu à peu. La chane, c'est un broc d'étain, étant pleine, Augustin parlant de ses places, des hôtels où il avait été, Jean-Luc disant « Combien tu gagnes ?» L'autre, « Des fois 100 francs. »«
Par mois ?»«
Par mois. »«
Tant que ça !»
Puis vint un silence. Augustin ajouta « Seulement la saison est courte. » Ils parlèrent ainsi. Elle pensait « Il l'a amenée. Est-ce possible ? » Mais de nouveau la voix de Jean-Luc s'éleva.
« Christine !»«
Tôt !» dit-elle.
« N'as-tu pas fini ?»«
Pas encore !» Au même moment, il entra.
« Qu'est-ce que tu fais ? On dirait que tu boudes !»
Et avant qu'elle eût pu même se retourner, il l'avait prise par le bras, et, la tenant solidement, l'amena dans la cuisine, prit un verre en passant, le posa devant elle, la fit asseoir près d'Augustin.
« Voilà comment on fait !» dit-il.
Tout à coup, elle avait changé.
« J'avais peur de vous ennuyer, mais si vous voulez bien de moi... »
Et comme Jean-Luc riait de nouveau, elle se mit à rire aussi.
« On est bons amis !» disait-il.
« Bien sûr !» qu'elle disait. « À votre santé à tous les deux !» Elle but, les deux autres burent. Elle était gaie, ils étaient gais. Et Augustin d'abord avait paru un peu gêné, mais la gêne lui passait vite. Elle avait ouvert le tiroir où il y avait un vieux jeu de cartes. Elle avait dit « Est-ce qu'on joue ?» Et les deux autres voulant bien, elle les mêla. Ils levaient le bras, ils abattaient les cartes, la lanterne éclairait, posée sur le bout de la table, avec la chane au couvercle levé, son ventre déteint, gris, et le jaune brillant des verres. Christine reprit le sien.
« Ah, tu bois !» dit Jean-Luc. « Tu ne voulais pas il y a un moment. Voilà bien les femmes. »«
Et les hommes, comment sont-ils ?» reprenait Christine. Et Augustin s'enhardissait.
« Ne le sais-tu pas, toi ?»
Elle le regarda longuement. Ils avaient recommencé à jouer. Elle avait vu changer au petit carreau de la fenêtre la couleur grise du soir, laquelle s'assombrissait, tournant au bleu foncé. Jean-Luc était heureux.
« Peut-être bien,
continua-t-il, mais ce que je sais mieux, c'est qu'on était bêtes de ne pas se voir. Pas vrai, Augustin ? » ?»«
On était bêtes tous les deux. »
Jean-Luc gagnait. Il avait toutes les annonces. « Carreau à tout, disait-il. Et puis, binocle, deux d'un coup. » On coupait.
« À moi, encore à moi !»
Et écrivant les points, il les additionnait sur un bout de papier.
« Encore moi » dit-il.
Christine lui répondit « Heureux au jeu, malheureux en amour !» Il ne fit que rire, et les voix allaient de l'un à l'autre, les demandes, les réponses, le nom des cartes qu'on jetait, un chiffre.
« À tout !»«
Je coupe !»« C'est moi qui donne !» Et Christine regardait pendant ce temps Augustin, qui s'était penché vers elle. Ils étaient tout près l'un de l'autre, avec Jean-Luc en face d'eux. Alors, jetant ses cartes, « J'en ai assez, » dit-elle, « si on faisait un autre jeu. » Elle s'était levée. Elle alla prendre à un clou son mouchoir, un mouchoir de coton blanc bordé de fleurs rouges, puis revint vers Jean-Luc.
« Tourne-toi, »
dit-elle.
« Que veux-tu faire ? »
« Tourne-toi toujours !» Pour lui faire plaisir, Jean-Luc s'était tourné. Alors elle lui dit
« Je te le mets, à toi qui vois clair !»
Et elle lui banda les yeux. C'est un jeu qui se fait entre filles et garçons. Celui qui a les yeux bandés cherche. S'il attrape quelqu'un, il faut qu'il devine qui c'est. Le mouchoir était large, la pointe tournée vers en bas. Jean-Luc a fait la figure couverte, et, un peu surpris, il était dessous.
« Mais on n'est rien que trois !»«
Et qu'est-ce que ça fait ? » dit-elle. « On s'amuse, c'est pour passer le temps. Promets-tu que tu ne vois rien ?»«
Rien du tout. »«
Sûr ? Bien sûr ?» Elle lui tira la langue. Augustin étouffa son rire. Elle, elle avait ri tout haut. Et cependant, Jean-Luc ayant commencé à chercher, les deux se sauvaient devant lui, tournant autour de la cuisine. Il allait, les bras tendus. Il se cogna au râtelier, il se cogna à la table, les autres chaque fois riaient. Il allait quand même, il tournait, et selon qu'il se rapprochait ou s'éloignait d'elle, Christine lui criait « Chaud !»«
Froid !»
ou bien « Tu brûles !» Et lui, la sentant près de lui, se lançait en avant, mais elle s'écartait. Alors il se heurtait au mur. Il s'arrêta et dit
C'est trop difficile, vous êtes trop peu nombreux. « Nigaud !» dit-elle, « va plus vite !» Et juste à ce moment, étant près d'Augustin à l'autre bout de la cuisine, elle se serra contre lui, alors il l'embrassa. Elle se laissa faire. Et cependant, Jean-Luc, comme elle avait voulu, s'était mis à tourner plus vite. Le fouet accroché à la porte tomba, un tabouret tomba. Il se prit le pied dans la table qui l'entraînait derrière lui, les autres s'échappant toujours. Rien n'y faisait. Il s'excitait au jeu, à ce bruit de pas qui fuyait, au frôlement des jupes de Christine, et soudain, l'ayant touchée au bras, il cria « Tu es prise !» Mais elle dit « C'est pas vrai, il faut taper trois coups dans le dos !» Jean-Luc était reparti, puis il s'arrêta de nouveau, essoufflé. Cette fois, on n'entendait plus rien. Il dit « Où êtes-vous ?» Point de réponse. Il dit encore « C'est défendu de se cacher !» Pas davantage de réponse. Alors il y eut du côté de la porte comme un glissement de pas. Le loquet claqua, il reprit « Qu'est-ce que vous faites ?» Puis la porte fut ouverte. Comme il comprit un bruit d'eau qui vint, il pensa « Ils sortent ?» Il souleva son mouchoir. Mais au même moment, Christine lui cria « Tu triches ! Tu triches !» Ses mains retombèrent. Alors il entendit des pas sur le perron, puis qu'on descendait l'escalier, et il fit encore cela, de les suivre. En tâtonnant, il arriva jusqu'à la porte, puis, se tenant à la barrière, descendit les marches à son tour. Il se trouva sur le chemin. Christine n'y était déjà plus. Elle avait dit à Augustin « Viens avec moi !» et l'avait entraîné. Un peu sur le côté, il y a une grange. Ils étaient allés se cacher derrière la grange. Ils attendirent un moment, puis tout à coup Christine regarda. Jean-Luc n'avait pas bougé de sa place. Au-dessus des rochers, la lune commençait à sortir. Une grande lune rouge, avec un front rond et un dessus de tête rond. Et, comme retenue par un poids, elle se haussait pesamment au ciel. Ses yeux vides vinrent les premiers, puis vint son nez plat, puis sa bouche creuse. Une fine lumière d'argent, comme une poudre qu'on secoue, se mit à descendre dans l'air et trembla. Et Jean-Luc était toujours sur le chemin, et il tenait son mouchoir à la main. Il vit Christine sortir la tête de derrière l'angle de la grange et brusquement la retirer. Il appela « Christine !» Elle ne bougea pas, il l'appela de nouveau. Elle répondit « Viens nous chercher !» Mais d'une voix changée, il cria plus fort « Rentre, ou je ferme ma clé !» Alors elle se montra, et derrière elle, Augustin. Jean-Luc ne l'avait pas attendu, déjà il avait remonté l'escalier. « Qu'est-ce qu'il a ?» dit Augustin. « Est-ce que je sais ?» dit-elle. Et puis « Il faut que j'aille, embrasse-moi encore une fois !» Ce qu'il fit, et elle, l'ayant quitté, elle rentra à son tour. Elle trouva Jean-Luc accoudé sur la table. En l'entendant venir, il n'avait point levé la tête. Il la tenait baissée, les yeux baissés aussi, avec un pli entre les yeux. Elle lui demanda « Qu'est-ce qui est arrivé ?»« Il y a, répondit-il, que tu te moques de moi. »«
Moi ? Je me moque de toi ?»
Elle reprit. « Mais est-ce que tu ne comprends pas qu'on s'amuse ? On est gai, voyons, on s'amuse. On est gai, on va se cacher, tu viens nous chercher. Et puis quand on manque de place... Et qui est-ce qui a amené Augustin, gros jaloux ?» Il dit « On reconnaît pourtant les choses. » Elle s'était penchée sur lui, s'appuyant contre son épaule. Et premièrement, il s'écarta d'elle. Mais s'approchant encore et le maintenant de son bras qu'elle avait passé autour de son cou, soudain elle lui dit « Tu sais, il y a un secret. » Il lui demanda « Quel secret ?»« Ah » dit-elle, « il faut être sage, sans quoi je ne te dirai rien. » Et comme elle sentait qu'il cédait déjà « Donne-moi ta grosse oreille. » Et alors de tout près, « Je crois bien que je suis enceinte de nouveau. »
Il ne pouvait pas le croire.
« Depuis quand ?»«
Depuis à présent. » Et ce soir-là, il fut encore heureux, même il eut regret de s'être fâché. Puis vinrent d'autres soirs, et l'inquiétude le reprit. Et il la surveillait, mais elle était à droite. Il se torturait. Il ne savait plus. Enfin, vint ce dernier soir. Chapitre cinquième. Il tendit le bras dans le lit, cherchant la place chaude et la forme d'un corps allongé. Il ne rencontra que le vide. Il ouvrit peu à peu les yeux. Il regarda. Tout était sombre. Il regarda et se dit « Est-ce que je rêve ? Ou bien je suis éveillé ?» Il eut un sentiment de froid et de malaise dans tout le corps, avec un bourdonnement dans la tête. Le poids de ses épaules était grand sur la paillasse. L'heure sonna, il compta les coups, il y en eut 11. Elle sonna pour la seconde fois, il compta les coups de nouveau. Il dit « 11 heures, 11 heures du soir, il va y avoir du changement. » Il faisait dehors une clarté grise où se découpaient les fenêtres pareilles à des plaques de zinc. Il restait sans bouger. Il souleva sa tête qui retomba. Une souris courait au plafond. On l'entendit venir avec son trottinement sec, puis un rongement et un grignotement auquel un souffle de vent à l'angle du toit répondit, et puis passa, et tout se tut. Il pensa « Le vent se relève. C'est pour la pluie, car il fait doux. » Soudain, le petit Henri appela. Cela lui rendit tout à fait conscience. Il revit la chambre, les meubles, les choses. Il dit « Je m'appelle Jean-Luc Robille. Ma femme est Christine Gindre. » Il sortit du lit, alla vers le berceau, prit le petit, revint, le coucha du côté du mur. Et déjà, à sentir la bonne chaleur, l'enfant se taisait, ayant posé la tête contre l'épaule de son père, et son petit corps se détendait dans l'abandonnement du sommeil. Il soupira encore, cherchant un coin chaud dans les draps, puis, serrant ses poings contre sa figure, il se rendormit. Mais Jean-Luc continua de veiller, car ses pensées étaient à présent nettes en lui, et nette sa résolution. Il se dit « Elle m'a trompé déjà une fois. Aujourd'hui, c'est la seconde. J'ai été lâche. Est-ce que je serai lâche de nouveau ?» Il se répondit « Non. » Et un pli se creusait entre ses deux yeux, car il avait honte de lui. Il n'avait point allumé la lampe. Il y avait l'obscurité. Il y avait seulement la pâle lueur des petits carreaux où faisait saillie le coin de la table. Et le reste des meubles se devinait à peine. Il était couché sur le dos, on entendait le souffle du petit, et du temps passa encore. C'est alors qu'il se fit un bruit de pas dans l'escalier, mais un bruit étouffé, comme si on marchait sur la pointe des pieds. Après quoi la porte de la cuisine s'ouvrit, elle ne grinça point. Jean-Luc pensa « On l'aura huilé ». Il resta étendu sur le dos. Il ne faisait pas le moindre mouvement. Pas plus qu'il ne bougea quand on pesa sur le loquet. Et à un frôlement de jupe, il se rendit compte qu'on était entré. Ensuite, on s'arrêta pour écouter. Puis le pas repartit, s'avançant jusqu'au milieu de la chambre. Alors, il eut Christine devant lui. Elle posa sur la table sa broche qu'elle venait d'ôter. Elle revint près du lit. Il n'avait point fermé les yeux. Il les tenait tournés vers elle. Elle ne s'en aperçut pas. Elle avait commencé à se déshabiller. Tout doucement, elle rangea sur la chaise son caraco et son jupon. Levant les bras, elle tira son peigne de dedans son chignon, puis elle voulut se coucher. Mais, comme elle appuyait son genou sur le bord du lit, soudain elle resta saisie, ayant rencontré ce regard. Il était calme, comme vide, et seulement posé sur elle. Pourtant, elle ne bougeait plus, restant là, le genou levé. Il lui dit « Tu es bien tard. » Sa voix, elle aussi, était calme,
non point celle d'un homme qui est réveillé en sursaut, mais celle de quelqu'un qui a attendu éveillé, ce qui l'effraya plus encore. Elle ne trouva pas de réponse. Jean-Luc reprit. « Est-ce que tu n'as pas sommeil, que tu te couches si tard ?» Justement, minuit sonnait. Elle dit « Tu comprends, le père est toujours malade. Il a eu besoin de moi. » Il dit « Ah, il est malade. » « C'est sa paralysie qu'il a repris, sa jambe lourde. » Mais lui, l'interrompant, « Tu n'arrêtes pas de mentir. » Et tout de suite, « Jure-le. » Elle répondit « Je le jure. » Il s'était mis assis. Il ralluma la lampe, il descendit du lit, il alla jusqu'à la porte qu'il ferma à clé. Et elle s'était écartée de devant lui, prise de peur, ses forces étant tout à coup tombées. Il y avait au mur le crucifix. Jean-Luc le posa sur la table. Il vint à elle. Elle s'était cachée la figure dans son bras plié. Il la prit par ce bras, elle se laissait faire. Il l'amena devant le crucifix et, lui ayant lâché le bras, lui prit la main qu'il posa sur le crucifix et, baissant de nouveau la voix à cause de l'enfant, « Tu l'as juré. Jure-le encore une fois. » Elle avait détourné la tête et, faisant un effort de tout le poids de son corps, elle cherchait à s'échapper. Mais il serra ses doigts noués autour de son poignet, tellement fort que les larmes vinrent aux yeux de Christine. Pourtant, elle ne jura point, à cause du Christ mis devant elle et dont elle avait le nom. Et tout son sang étant descendu à son cœur, avec sa taille déjà lourde, elle était bien triste et misérable, qui reculait ainsi, et cependant cherchait à se redresser, ayant gardé de l'orgueil au fond d'elle, et souffrant d'être humiliée. Mais il avait repris. « Jure que tu ne viens pas de chez lui !» Alors il y eut un mouvement d'attente, et le crucifix était là. C'était un vieux, de ceux qu'on peut mettre debout, et qui ont un socle taillé en plein bois. Il était peint en rouge et en bleu, avec des ornements et un tout petit Christ, et les bras de la croix très larges. Le crucifix semblait attendre également. Et Jean-Luc regarda Christine, et à présent elle le regardait elle aussi, avec des yeux brillants, comme ils sont dans la fièvre. Et à ce moment, il y passa encore une espèce de moquerie qui fit que malgré lui, il recommença de serrer, et elle se tordit de douleur. Il se mit à dire vite « Et le petit, est-ce qu'il est de moi ?» Cette fois, tout de suite, elle répondit « Je le jure !» « Et celui qui n'est pas encore là ?» Elle baissa la tête « Je ne sais pas !» Alors, comme malgré lui, il la repoussa en arrière avec violence. Elle tomba contre le mur, les larmes lui coulaient une à une sur les joues, roulant sur sa chemise où elle était nue et transie de froid. Et lui, baissé contre elle, ne l'ayant point lâchée, leva soudain le bras. Car, comme elle était avec lui, elle avait été avec un autre, et cela il l'avait peut-être deviné, mais non point vu clairement en pensée, comme maintenant il faisait. Et l'ayant saisie par les épaules, il s'appesantissait sur elle. Mais Christine s'était redressée. Ils luttèrent un moment. Elle tomba à genoux, elle poussa un grand cri. L'enfant lui aussi s'était réveillé. Jean-Luc dit « Demande pardon !» Elle ne voulait point. Trois fois elle se releva. Trois fois il la replia par terre. Et ses genoux faisaient un bruit sur le plancher. Elle ferma les yeux. Et lui, haussant la voix « Demande pardon !» Est-ce qu'elle espéra que ce pardon viendrait, ou bien est-ce qu'elle fut vaincue? Tout à coup, elle s'affaissa, ses tresses pendant sur son visage. Elle dit « Pardonne-moi ». Tout aussitôt, il la lâcha. Ayant été chercher ses habits sur la chaise, il les lui apporta. « Habille-toi » dit-il. Puis retourna à l'enfant qui pleurait, et l'ayant pris dans ses bras, debout près du lit, le berçait. Elle, à l'autre bout de la chambre, avait commencé à se rhabiller. Lentement, elle mit sa jupe,
agrafa sa taille et son caraco, et devant le petit miroir, elle refit son chignon. Et dans le miroir, elle se voyait, avec ses yeux brûlants et des plaques rouges à ses joues. Elle refit son chignon, mit dedans les peignes de cuivre. Lui restait debout, près du lit, sans bouger. Quand elle eut fini, « Es-tu prête ?» Elle fit signe que oui. « Et tes souliers ?» Elle dit, « Ils sont à la cuisine. »« Eh bien, » dit-il, « viens avec moi. » Le petit continuait de pleurer. Il le recoucha, il la fit passer devant lui, et dans la cuisine, il lui dit, « À présent, mets tes souliers. » Assise sur le banc, elle mit ses souliers. « Tu peux prendre aussi ton fichu. Ce qui est à toi est à toi. » Obéissante, elle prit son fichu. Et de nouveau, il lui demanda, « Es-tu prête ?» Et de nouveau, elle fit signe que oui. Il fut devant la grosse porte, à la lourde serrure de fer forgé, et qui était renforcée en dedans par d'épaisses traverses. Puis, faisant glisser le pêne avec la poignée martelée où étaient gravés des petits dessins, la grosse porte s'ouvrit. Il la tint ouverte. La nuit était toute noire et froide, le vent soufflant toujours plus fort, avec un vilain courant d'air et un poids de brouillard quand même sur l'étang. Elle eut peur devant cette nuit. Elle dit « Jean-Luc !» Il répondit « Va-t'en !» Elle courba la tête, elle sortit. Tout de suite, il referma la porte. La serrure, en claquant, fit un grand bruit dans le silence. Il écouta. Il y eut derrière comme un soupir, et un moment elle resta sur le perron, sans bouger. Puis elle descendit une marche, s'arrêta encore, en descendit une autre, et ainsi, hésitant, jusqu'au bas de l'escalier. Tout à coup, elle éclata de rire. Elle remonta l'escalier en courant, elle tapa du poing contre la porte. « Puisque j'en ai un !» criait-elle. « Qu'est-ce que ça me fait ? Qu'est-ce que ça me fait ? Tu as le tien, j'ai le mien !» Elle rit encore. Puis il l'entendit s'éloigner. Il retourna vers le lit. Il avait pris l'enfant. Il le soulevait dans ses bras. Et le petit appelait « Maman ! Maman !» Il lui dit « Tu n'as plus de mère !» Chapitre sixième. Elle ne revint pas. On apprit qu'elle avait été habitée chez une sœur, où elle devait faire ses couches. C'est ainsi que, quelque temps après, Jean-Luc, un matin, sortit de chez lui. Grand et un peu voûté, on le vit qui venait et enfermait sa porte. Il marchait lentement, s'appuyant d'une main sur un gros bâton, tenant de l'autre le petit. Il alla d'abord chez le maréchal. Le maréchal s'arrêta de battre son fer, tellement il fut étonné de voir comme il avait vieilli. Jean-Luc lui dit « Elle m'a trompé de nouveau. Ne me parle plus jamais d'elle. » Cependant, Marie, l'ayant entendu, était descendue. Il lui répéta « Ne me parle plus jamais d'elle. » Il ajouta « Je suis venu vous prévenir. » Il repartit. Il continua son chemin. Il s'en alla dans le village. De temps en temps, il s'arrêtait, s'asseyant sur un bord de mur, un tas de poutres, une barrière. Et les gens se disaient tous, comme le maréchal, « Comme il a vieilli et maigri !» Pour lui, il entra encore chez ses deux cousins, Théodule et Dominique. Puis il s'en retourna, descendant la petite rue, passant près de la fontaine, puis le long des jardins qu'il y a devant les maisons, et ils sont tout petits, mais carrés et bien arrangés entre les barrières tordues. Des femmes, des filles, venaient, une qui portait dans un petit pot de la crème et marchait avec précaution. Une autre, claire de couleur, avec ses cheveux blonds et son tablier bleu et blanc. Des hommes disaient bonjour à Jean-Luc, et il continuait son chemin sans leur répondre. Un grand soleil était de nouveau monté au ciel, plus clair et vif, comme il arrive après les jours de mauvais temps. Les restes de neige fondaient, et les côtés des toits qui sont dans l'ombre, encore garnis, dégouttaient. Alors, dans la terre creusée, il se fait une ligne droite où les petites pierres, mises à nu, luisent. Il rentra chez lui, fit bouillir de l'eau, se mit à laver les tasses et les assiettes. Il balaya la cuisine, et quand elle fut en ordre, comme midi venait, il fit cuire la soupe. Il la donna à manger au petit, lui tendant maladroitement la grosse cuillère. Il posa ses mains devant lui. Il se disait « Elles sont trop lourdes. Elle les avait petites et légères. Seulement, c'est des mains qui ont connu le mal. » Il reprenait. « Ça, c'est les miennes. » Il redressa la tête. « On s'en servira. » Sur quoi, Félicie étant arrivée, il fit un gros paquet des habits de Christine qu'il lui donna, et il lui dit « Prends-les et porte-les chez vous. Et toi, va-t'en, je ne veux plus te voir. » Mais elle revint, et il eut pitié de sa simplicité. Elle reprit sa place près du feu, et ainsi, il entra dans sa nouvelle vie. Elle fut difficile, toutefois il tint bon. On l'aidait parce qu'on pensait « C'est Christine qui a eu tort, et non pas lui. Il a beaucoup de qualités, seulement il ne voit pas clair. » C'est pourquoi Marie, dès le premier jour, lui avait dit « Jean-Luc, quand tu t'en iras, apporte-moi seulement le petit. Je le mettrai avec les miens. Un de plus, ça ne se voit pas. » Jérômette aussi était venue. C'était une petite vieille qui avait eu 2 filles et 3 fils. Et tous ses enfants étaient morts, son mari comme ses enfants. Alors elle s'était mise à aimer tellement les fleurs qu'il y en avait partout dans sa chambre, et ses fenêtres en étaient garnies, et aussi son petit jardin. Elle dit à Jean-Luc « Moi aussi, je te garderai le petit. » De telle façon qu'allant au bois, il trouvait à son retour l'enfant bien lavé et bien habillé, ce qui l'encourageait à vivre. Il faisait effort, il disait « Il faut que je fasse voir que je suis solide. » Et il soulevait ses poings lourds, et s'encourageait, ayant pris sa hache ou le coin à fendre les troncs. Et quand il retombait, comme il lui arrivait parfois, il se criait « Debout !» Il se remettait debout, parce qu'il se disait « J'ai cet enfant qui est à moi, c'est pour lui qu'il faut que je dure. » À quoi il trouvait encore de la douceur, et à se le redire, recommençant, « Il ne faut pas trop demander. » Et quelquefois, le soir, il se sentait comme soulagé, les jours étant venus les uns après les autres, qui sont comme de l'eau fraîche sur une plaie qu'on a, avec les petits plaisirs qui reparaissent. Et c'était de sentir le travail accompli, ayant mangé, fumant devant le feu, et la chaleur venait en lui, qui fait courir le sang et le cœur bat plus à son aise. Il allait voir le petit qui dormait, il revenait, il se disait « Voilà, je suis tranquille, je me suis fait une raison. » Tandis que les premiers jours, tout le temps il cherchait Christine, et tout était pour lui comme une image d'elle. Un dé qu'il retrouvait, un clou planté, un bruit de pas, ou une voix dehors, et il se tournait vers la porte. Et ce n'était que Félicie, ou n'importe qui, quelqu'un qui passait. Et il sentait en lui un déchirement, chaque fois. Une grande fatigue aussi, car il luttait là contre de toutes ses forces, s'étant promis de ne jamais penser à elle. Une humiliation aussi chaque fois, car il se disait « Elle est la plus forte !» Et il pensait « Y a-t-il au monde quelqu'un de plus malheureux que moi ?» À présent, il était guéri. Du moins, il voulait le croire et s'y efforçait. Il y eut un jour le soleil qui sortit de dedans les branches du bois secouées de leur neige. Il y en avait des entassements au pied des troncs. Il le vit, ce soleil, se soulever en l'air, s'élancer au ciel. Et, après les grands froids et les tristes matins d'hiver, il fut comme une grande joie. Jean-Luc alla visiter ses barrières. Elles étaient dans le délabrement. Il se disait « Dès que le beau temps sera là, je vais me mettre à les refaire. Il faut que le petit trouve le bien en bon état. » De même, il visita la maison qui avait été négligée pendant l'été, où l'ouvrage au champ mange les journées.
et l'hiver avant aussi, parce qu'il n'était pas là. À quoi il songeait? Il vit les marges de l'escalier branlantes, les murs fendus et crevassés. Il se disait « On a vécu dans le désordre, ça va finir ». Il avait dans une boîte un peu d'argent, économisé difficilement et lentement. Il le compta, il se disait « Il faut qu'il y en ait le double l'année prochaine ». Et, songeant aux moyens, « Voilà, c'est le temps de l'année où on n'a pas beaucoup à faire. Si j'allais chez Combi, qui a besoin d'un ouvrier, puisque j'ai appris le métier ?» Il alla chez Combi. C'était le menuisier. La chose s'arrangea sans peine. Il se remit à la varlope, à la gouge et au vilebrequin. Parce que, comme il disait encore, « La terre, c'est ce qui vaut le mieux. C'est assis, ça dure. Mais l'argent a un joli son. » Et il ne lui restait qu'un fond de tristesse et un air grave, ayant mûri. Quand, de nouveau, tout fut détruit en une fois. Le Mardi Gras était venu, et comme il faisait beau et chaud, il avait été voir les masques, les bouffons, comme on les appelle, et tous ceux qui étaient restés au village avaient fait comme lui, si bien que, du haut en bas de la rue, les bancs étaient garnis de monde. Il y avait une dizaine de ces masques. La bande montait la rue, puis la redescendait. Alors, les vieux qui sont un peu en dehors de la vie regardaient sans rien dire, penchés en avant sur leurs genoux durs, mais les jeunes s'amusaient. La bande passait, repassait, avec, comme c'est la coutume, les garçons habillés en filles. Et tous avaient la figure masquée, ou encore frottée de suie, s'étant fait des ventres avec des coussins, ayant changé de démarche, ayant changé de voix. Le jeu, pour ceux qui regardaient, était de tâcher de les reconnaître. On se disait « Qui est-ce ?» Et on trouvait, et on riait. On riait surtout d'un qui venait d'arriver, court et ventru, avec un sac de cuir plein de cendres qu'il jetait en passant à la figure des filles, et on les entendait crier parmi les rires, tandis que le gros ventru leur courait après. On disait « Ça doit être Antime !» C'était un voisin de Jean-Luc, qui s'était brouillé avec lui par rapport à une part d'eau, lequel, tout à coup, vit Jean-Luc, s'approcha, et, debout devant lui, les jambes écartées, se mit à lui dire, montrant le petit « Où l'as-tu trouvé, celui-là ?» Le petit, qui avait peur, se cachait la figure derrière l'épaule de son père. L'autre recommença. « L'as-tu payé cher ?» On avait vu Jean-Luc pâlir. Il ne répondit rien à l'homme, sinon « Passe ton chemin !» Mais sitôt que l'autre se fut en allé, il se leva et rentra chez lui. Le soir du même jour, il était invité chez le maréchal. Comme 8 heures étaient passées, et qu'il n'était pas encore là, quelqu'un se décida à aller le chercher. Ce quelqu'un trouva la maison fermée et revint en disant « Il dormait déjà !» Il ne dormait point, au contraire, car l'idée étant entrée dans sa tête, comme un ver perce le bois, il était tourmenté par elle, au point que toute idée de sommeil l'avait fui. Il se disait « Si c'est Antime !» C'est mon ennemi, il a pu mentir. Mais elle aussi a pu mentir, elle n'a jamais fait que ça. Tenant la lampe levée au-dessus de l'enfant, il reprenait « Il est blond, non pas noir comme moi. Et elle aussi, elle était noire. Il est blond comme l'autre, ah mon Dieu !» Il alla devant le petit miroir, il se regardait dedans. À cause de la lumière qui venait d'en haut, sa figure semblait encore plus maigre et creusée, avec 2 trous à la place des yeux, 2 trous au milieu des joues, des plis au front et 7 pâleurs. Il se disait « Est-ce qu'il me ressemble? Est-ce qu'on sait? Que faut-il faire ?» Il se laissa tomber sur le bout du banc. Alors, comme quand un rayon, par un triste soir de novembre, perce tout à coup les nuages et éclaire d'un faux jour, il vit plus clairement la misère de sa vie. Il disait « Je ne peux plus, je ne peux plus !»
On entendait au loin rire des filles qui rentraient. Il y avait un bruit d'orguette aux claires notes sautillantes, parce qu'on profite de ce dernier jour avant le carême qui vient. Le lendemain, Jean-Luc se mit à boire. On fut obligé de le porter chez lui et de le coucher. On eut même beaucoup de peine à trouver la clé qu'il avait cachée à une nouvelle place. Et la vieille Jérômette, ayant ramené le petit vers 6 heures et n'ayant trouvé personne, avait été forcée de le prendre à coucher chez elle. Jean-Luc tomba du lit pendant la nuit. Il se réveilla le matin, étendu sur le plancher, avec une bosse à la tête. Il se rhabilla, il retourna boire. 3 jours de suite, il but. Le 4e jour, Jérômette revint, toujours avec l'enfant. Elle dit à Jean-Luc, « Il faut que je guette quand tu es chez toi. Ce n'est pas beau ce que tu fais, Jean-Luc. » Il la regarda sans répondre, mais comme elle lui tendait le petit qu'elle avait, malgré son grand âge, porté tout le long du chemin, il la repoussa durement. « Mène-le, dit-il, à ceux qui l'ont fait. » Alors, prise de pitié, elle le reprit et le remporta. Et à présent, le petit réclamait son père, et il se désola tout le long du chemin, si bien que les gens sortaient de chez eux et disaient « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Ah, voilà, disait-elle, et moi je ne sais plus que faire. » Car elle était pauvre et point assez forte pour se charger comme ça d'un enfant. Mais un moment après, Jean-Luc sortit aussi et s'en alla jusque chez Firmin Croc, qui était un vieux, riche et très avare, qui habitait à l'entrée du village. Il avait eu autrefois envie d'une des vaches à Jean-Luc. Jean-Luc, étant entré, la lui offrit. L'autre demanda « Combien ?»« 300, dit Jean-Luc. L'autre dit oh, « C'est trop cher. » Car il savait tout. Alors Jean-Luc se mit à lui dire « Vous comprenez, je n'en ai plus besoin. » « Est-ce qu'elle vous plaît ?»«
Que oui, que non, » dit Croc.
« Eh bien, dites votre chiffre, vous. » Croc lui dit « 200. » C'était à peu près la moitié du prix que valait Fumette, car elle donnait 8 litres de lait. Jean-Luc, cependant, lui dit « Entendu. » Mais l'autre reprit « Il y a encore une chose, je t'en donne 100 à présent, et les autres 100 francs, tu les auras dans 3 mois. Je te ferai un papier. »
Pour ça, non.
Alors, 170 comptant, et tu m'amèneras la bête tout de suite. Jean-Luc retraversa le village. Il faisait doux, les toits fumaient une vapeur. Il s'en alla à l'écurie, détacha Fumette, il la tirait par la corde, mais elle meuglait, ayant regret de la bonne litière, tandis que les gens lui disaient « Qu'est-ce que tu fais? Où l'amènes-tu ?» Mais il ne leur répondait rien. Devant la maison de Croc, il s'arrêta. Il s'en revint, serrant dans sa poche son porte-monnaie qui était lourd. Le soir, il retourna boire. Il posa sur la table 2 pièces de 5 francs. Il dit « C'est moi qui paie. »